Voilà, je vous propose d'ouvrir la parole sur le verset que David a choisi, le psaume 71, verset 3. Un court verset, mais assez fort, qu'on peut connaître et qu'on vous connaissez sans doute, et je vais le relire. Psaume 71, verset 3, j'ai mis le verset, je crois, Laïna. Est-ce que vous voyez ? Ça va, parce que je suis devant. Sinon, je vais me décaler. Ça va, est-ce que vous me voyez là ? Vous voyez l'écran ? Ok, super. Sois le rocher où je trouve un refuge, la place forte où je peux accéder à tout moment. Oui, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. C'est le roi David qui a écrit ce psaume. Un psaume, finalement, qui traduit un peu tout ce qu'il va vivre durant sa vie. Et je vais commencer par cette petite histoire personnelle. J'ai mis une photo, Léna, tu peux la mettre. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit, c'est assez connu dans les Pyrénées. Ça s'appelle la boucle des Espillères. Donc c'est un trek, une randonnée, un peu un trek, et je sais pas voilà, si vous connaissez, voilà, c'est une randonnée que j'ai faite plus jeune. Moi je suis un fan de randonnée, marcher j'aime bien, et encore plus quand c'est difficile. Quand c'est tout plat c'est intéressant si c'est joli, mais quand c'est dur c'est intéressant puisqu'il y a l'effort de pouvoir faire, et bon, en tout cas c'est ce que j'aime. Et beaucoup plus jeune on a fait du coup ce trek, cette randonnée dans les Pyrénées. Et vous connaissez, quand on est jeune, on est plein de fougue, mais pas forcément très sage. Et je connaissais pas du coup cette randonnée, et un ami à moi qui habite dans les Pyrénées, fan de randonnée, qui nous avait parlé de pouvoir descendre dans le sud pour pouvoir marcher. On descend, on était à trois, et du coup on avait tout préparé, cet ami connaissait bien cet itinéraire, ce sentier, et le parcours, les paysages, les difficultés, et du coup on avait tout préparé, on était équipé. J'avais 22 ans, je me rappelle, j'étais bien motivé, et on était parti sur, allez, 10-12 heures de marche. Tout semblait sous contrôle, la météo, le ciel était bleu, parfait, on était fin septembre, donc un peu dans la saison actuelle. Et voilà, on se prenait un peu pour des aventuriers professionnels avec nos bâtons de marche et nos chaussures de rando. Mais à mi-chemin, on venait de, même pas de commencer, mais on avait marché pendant au moins déjà 6 heures. Il n'y avait pas plus âme qui vive, on ne pouvait pas faire machine arrière. Tout d'un coup, le ciel s'est obscurci. Et vous savez qu'en montagne, quand il ne fait pas beau, quand il fait plus sombre qu'en plaine, on voit moins le soleil en montagne à cause de l'altitude et des sommets. Et soudain, du coup, il y a un orage qui va tomber, assez violent. Nuages sombres, vent violent, et un orage qui va éclater. Alors, je vous ai mis une image. Alors, c'est pas l'image que moi j'ai prise, hein, mais un peu d'orage dans les Pyrénées. Voilà ce que ça donne. On est en pleine journée, hein. Donc, vous voyez que c'est très vite sombre. Et quand vous êtes dedans, quand vous êtes en bas, ça va, mais quand vous êtes dedans, vous pouvez vite paniquer. Sur les sentiers qu'on avait pris, en plus, il y avait un sentier qui était pas balisé. Donc, je me rappelle, il y avait un ravin pas très loin, et quand il pleut que vous ne voyez rien, très vite on commence à paniquer. Pourtant on avait l'habitude de marcher, mais là du coup voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus, et surtout un orage que on n'avait pas vu venir. Nos chaussures glissaient, et on cherchait désespérément des appuis sûrs, et surtout un abri. On avait vu du coup un peu plus haut qu'il y avait un renfoncement dans la paroi rocheuse, dans la montagne, pour pouvoir s'abriter. Et du coup, nous avons fait les efforts qu'il faut pour pouvoir nous abriter sur ce creux de rocher avec difficulté. Et sous ce creux de rocher, on entendait l'orage qui tombait avec la vallée, le tonnerre qui gronde très fort. Et du coup, on avait 22 ans, mais on faisait pas les fiers. Et très vite, on a réalisé une chose, c'est qu'on peut tout préparer, tout contrôler. On ne maîtrise pas, finalement, les vies, les événements de nos vies. Et notre aventure héroïque, finalement, ressemblait plutôt à un épisode catastrophique. On en a voulu à cet ami, alors que c'était pas de sa faute. Il avait regardé la météo, il n'y avait rien d'annoncé. Ça arrive, hein, épisode météo. Et voilà, épuisé, nous avons cherché un abri. On avait fait demi-tour pour refaire machine arrière. On n'était plus du tout en état de continuer. Et heureusement qu'il y avait ce rocher dans la paroi rocheuse, parce que sinon je pense qu'on aurait eu bien froid, on serait déjà tombé malade. Et surtout, avec un ravin à côté, c'était surtout ça, le danger. La vie ressemble souvent à cette tempête. On croit avoir le contrôle, puis soudain, il y a tout qui s'effondre. On pense avoir tout préparé, tout calculé, Et finalement, la tempête arrive. Tempête qu'on ne prévoit pas et que dans la vie, on ne maîtrise pas. Les événements de nos vies. Où trouver un appui solide? David a témoigné ce matin que lorsqu'il s'était éloigné de Dieu, il a connu ce vide. Mais lorsqu'il est revenu, il a trouvé en Jésus son rocher. Et Jésus, ce matin, est ce rocher, comme nous le présente le roi David dans le psaume 71, qui nous présente un Dieu comme un refuge, un rocher, une forteresse. Ce que le roi David a expérimenté, David l'a aussi vécu, et peut-être aussi parmi vous, qui avez donné votre vie à Dieu, vous avez pu expérimenter ce Dieu qui, dans nos tempêtes de vie, est un refuge et un rocher. Et je vous propose du coup de parler rapidement de cela en trois points. Premier point, qui est le plus long, Jésus, le rocher sur lequel bâtir par l'obéissance à sa parole. Et c'est le début du texte de ce verset, sois le rocher où je trouve un refuge. Et dans la Bible, il est beaucoup question de rocher, en disant que Dieu est notre rocher, Jésus est notre rocher, et ça rejoint cette parole de Jésus, j'ai mis le texte, c'est Matthieu 7, qui va dire ceci, et Matthieu 7, verset 24, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle est tombée et sa chute a été grande. Jésus ici parle de deux hommes, l'un qui bâtit sur le rocher, l'autre sur le sable. Extérieurement, les deux maisons sont identiques. On ne voit pas la différence. Mais la différence va se révéler quand la tempête arrive. C'est là qu'on le voit finalement celui qui a bien bâti ou pas. Une question pour vous ce matin. Vous connaissez ce passage, hein, de la maison bâtie sur le roc et sur le sable. À votre avis, c'est quoi le rocher dans cette histoire? Jésus parle de rocher. C'est quoi le rocher? La foi, alors pas tout à fait, non. Jésus, oui. Effectivement, c'est Jésus. C'est Jésus le rocher, mais concrètement. C'est notre appui, ouais. Je suis d'accord avec vous, hein. Jésus, c'est le rocher. On l'a vu, hein, David y va en parler dans son psaume. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, bâtir sa vie sur Jésus? Mettre en pratique sa parole. Ouais, c'est ça. Le rocher ici, ce n'est pas juste Dieu. Alors c'est Dieu, Jésus est le rocher, mais c'est la parole mise en pratique. Et le sable? Bah, le sable, tout simplement, c'est l'inverse. C'est aussi la parole, hein. C'est les deux ont construit la même maison, mais c'est la parole qui n'est pas mise en pratique. C'est celui qui entend la parole de Dieu, qui vient tous les dimanches peut-être, mais qui dans sa vie ne conforme pas finalement ce que Dieu dit et ce qu'il entend. Celui-là, il peut être comme les autres, mais quand l'épreuve frappe, on voit du coup que la parole, elle, n'a pas été mise en pratique. Cette parole ici, c'est la Bible. Mais Jésus ici est la parole. C'est Jean qui va le dire, hein. Jean chapitre 1, que Jésus, Dieu ici, est la parole incarnée. Et celui qui bâtit, qui met sa foi en Jésus, qui est le rocher, tout le monde est d'accord dessus. Mais de manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du coup obéir à ses commandements. Obéir à ce que Dieu veut. Dire on bâtit sa vie sur Jésus, tout le monde peut le dire. Mais est-ce que finalement, concrètement, c'est ce que l'on fait? C'est ce que Jésus ici va critiquer dans cette parabole. Puisque Matthieu 7, il va avoir fait son serment sur la montagne, il va avoir prêché Jésus. Et c'est à la fin qu'il dit cette parole. Finalement, vous m'avez écouté, vous m'avez tous écouté dire ce que j'ai dit. Maintenant, voilà cette histoire. Celui qui m'écoute et qui met en pratique bâtira sa vie de manière solide. Celui qui l'a écouté, parce que tous ont écouté, et qui ne met pas en pratique, quand la tempête arrivera, sa chute sera grande. Est-ce que du coup ça veut juste dire je crois en Jésus? Non. Ça ne suffit pas. Jésus nous donne la réponse, bâtir sur lui. Et bâtir sur lui, c'est écouter et mettre en pratique sa parole. Sa parole qui nous édifie, qui nous encourage, mais aussi qui nous dérange, qui nous bouleverse. Puisque nos cœurs, nos pensées ne sont pas comme celles que Dieu voudrait. Nous sommes en cheminement, et bien sûr que du coup, Dieu vient parler, Dieu nous reprend, et à nous d'écouter, mais ça tout le monde sait faire quelque part, c'est ce que Jésus dit, mais de mettre en pratique. Obéir à la parole, du coup, ce n'est pas juste appliquer une liste de règlements, comme à l'école. La Bible dit que la parole était Dieu, et que la parole a été faite chair. Celui qui met sa confiance en Jésus, Dieu nous donne aussi son Saint-Esprit pour être en capacité de pouvoir suivre ceux qui l'attendent. Il ne nous laisse pas seuls. À nous d'être cette deuxième maison. Ce matin, des maisons, il y en a plein. David a construit sa maison, j'ai construit ma maison, vous avez tous construit votre maison. La vraie question, ce n'est pas si vous avez une belle maison ou pas. Ça se trouve, il y en a certains qui ont des très belles maisons, alors je parle spirituellement, de manière d'apparence extérieure. Mais ce qui compte finalement, c'est la fondation. Si la fondation, finalement, ici, n'est pas solide, qu'est-ce qui va se passer? À la moindre épreuve, tout va s'envoler. Quelles sont les épreuves? Épreuve de la vie, ça peut être le deuil, perte d'un emploi. Et aussi, ça peut, et bien souvent, c'est ça aussi en tant que chrétien, ça peut être aussi les différentes tensions, joies que l'on peut vivre dans l'Église, qui peuvent nous bousculer. Et si ici la parole de Dieu n'est pas au centre de nos vies, c'est notre propre envie, notre propre chair qui va parler, et nous allons partir. Je vous trois messages ce matin suite à son premier point. Pour toi, David, déjà, pour commencer, c'est ton baptême aujourd'hui. Et ce matin, c'est super, c'est une vraie joie dans le ciel et aussi ici, parmi nous, dans notre église, parce que tu déclares publiquement, je veux bâtir ma vie sur le rocher, sur Jésus, sur sa parole. Et pour pouvoir tenir finalement durant toute ta vie, mon conseil que je te donne, mon frère, c'est de mettre en pratique sa parole. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, David l'a rappelé tout à l'heure. Et c'est pouvoir compter sur cette grâce de Dieu qui continuellement coule. Pour vous aussi, mes frères et sœurs, c'est un rappel. Si vous venez chaque matin pour écouter la parole, venir à l'église, et que vous n'appliquez pas dans votre vie ce que Dieu demande, vous êtes, c'est pas moi qui le dis, vous êtes des fous. Qui attendez l'orage? Comme moi lors de ma randonnée. Et finalement, quand cet orage tombe, on pense toujours être prêt. Oui, mais rien pourra me bousculer dans ma relation avec Dieu. Mais quand l'épreuve, la vraie épreuve frappe, et que Jésus n'est pas au centre, c'est là que l'on voit que la maison, elle disparaît. Et toutes les raisons sont bonnes pour que la maison disparaisse. Hein. Le propriétaire pourra toujours dire « la tempête était trop forte ». Oui, mais c'est pas la question. La question, c'est celui qui a mis sa foi en Jésus. Sa fondation, elle est solide. La maison peut être bousculée, elle peut trembler. Mais elle ne s'effondrera pas. C'est la promesse de Jésus. Ce matin, mes frères et sœurs, c'est un rappel aussi pour nous. Combien ont commencé et combien n'ont pas terminé? Et bien souvent, c'est parce que c'est les épreuves. Déception, découragement. Qui peuvent se comprendre. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a aucune excuse pour ne pas continuer. On ne pourra pas dire devant Dieu, il y a eu ça dans ma vie, comprends-moi Seigneur. Jésus a donné sa vie pour nous. Sa compréhension ici, c'est négliger finalement son amour. Et pour vous qui ne connaissez pas Jésus, vivre sans Christ, c'est bâtir sur du sable. C'est ce que Jésus dit. Mais aujourd'hui, tu peux recommencer cette nouvelle construction solide, éternelle, sur Jésus le rocher. Mon deuxième point, c'est la suite du texte, la place forte où je peux accéder à tout moment. C'est ce que le roi David va dire. David a témoigné, pendant 3 ans, il a cherché ailleurs. Notre frère s'est perdu, mais il a découvert que Jésus l'attendait, les bras ouverts. C'est aussi cette parabole du fils prodigue qui va revenir, comme le roi David, celui qui va écrire ce psaume, qui tant de fois va revenir sans cesse à Dieu. Jésus ici, ce n'est pas un refuge temporaire. Moi, dans mon histoire dans la montagne, mon refuge était temporaire. Mais Jésus, c'est beaucoup plus, c'est un refuge permanent. Quand nous nous sentons faibles, en panique, Jésus est celui qui est là prêt à nous accueillir et nous confier en lui dans la prière. De manière personnelle, individuelle, ça peut être aussi à travers les frères et sœurs, mais venir à Dieu comme tu es. Ça peut être une phrase de McDonald's, hein. Venez comme vous êtes. Mais avec Dieu, c'est pareil. Venez comme vous êtes. Dieu vous accueille tel que vous êtes. C'est ce que dans les évangiles on voit. Jésus va aller trouver des hommes et des femmes de mauvaise vie. Il n'attend pas qu'ils avancent, qu'ils font le premier pas. C'est lui qui va aller vers eux. Et puis le troisième point, c'est Jésus, le sauveur et la forteresse. Le roi David conclut ce passage. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Et ça, c'est la richesse chrétienne. Dieu a résolu de sauver. Ce n'est pas une option, c'est un plan que Dieu a arrêté et qui s'est résolvé en Jésus-Christ. Jésus est mort et ressuscité pour être notre forteresse. Notre forteresse contre le péché, contre le diable, contre la mort. Et Jésus va dire ceci, « Nul ne les arrachera de ma main. Celui qui a connu Dieu, celui qui a véritablement connu l'amour de Dieu, rien ne pourra nous séparer de son amour. » Il peut y avoir du découragement, il pourrait y avoir beaucoup de choses, mais rien ne pourra bouger, changer cela. Dans ton baptême, David, ce matin, tu proclames cette vérité, et on l'a entendu tout à l'heure, que Jésus est ton sauveur et ta forteresse. Et ce verset, c'est un très beau verset. Et j'espère qu'il sera ton appui et que ce verset pourra te rappeler, durant les épreuves qui viendront, finalement, de t'appuyer sur ce rocher. Tu pourras aussi t'appuyer, bien sûr, il y a l'Église, mais avant tout, c'est sur Christ. Dieu ne nous demande pas de bâtir notre vie sur l'Église, sinon on ne serait pas là, mais sur le Christ, le rocher, celui qui unit d'ailleurs l'Église. Ce matin, peut-être que vous vous croyez peut-être assez fort aussi pour vous sauver vous-même. Peut-être que certains peuvent dire, et peut-être que vous pouvez vous dire, si je fais de bonnes œuvres, si j'arrive à mettre de bonnes actions dans ma vie, un peu d'ordre, peut-être que je serai sauvé. Ce matin, voilà, je voudrais quand même rappeler cette vérité. Aucune bonne action ne vous sauvera. C'est Paul qui va le rappeler, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pourquoi ? Parce que tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas un juste, c'est ce que l'évangile va dire, pas même un seul. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le don que Dieu accorde finalement, c'est la vie en Jésus-Christ, puisque lui a donné sa vie pour chacun de nous. Aujourd'hui, tu peux recevoir Jésus comme ton sauveur et entrer comme David ce matin, dans cette forteresse, dans ce refuge qu'est notre Seigneur, qui est capable dans les moments difficiles de pouvoir apaiser. Je me rappelle encore dans cette randonnée, hein, ça grondait fort. Quand on a trouvé refuge là, dans cette paroi rocheuse, ça tremblait de partout, la paroi a tremblé aussi, mais on était soulagés. Parce qu'il pleuvait pas déjà sur nous, on avait peur surtout de choper la foudre. Du coup là on s'est dit, au moins il n'y a rien de tout ça qui va arriver, et on était apaisés. Et trouver un refuge en Dieu, c'est la même chose. Dans les épreuves, dans les tempêtes qui frappent, pouvoir trouver finalement une pause. Et plus qu'une pause, Jésus est ce rocher permanent. Pour conclure, cette histoire d'un missionnaire en Afrique qui va voir un enfant tomber dans une rivière. On est au Gabon, et ce missionnaire, finalement, dans la brousse du Gabon, va voir cet enfant tomber dans la rivière, pleine de crocodiles. Il va sauter aussitôt, il va risquer sa vie, il va réussir à sauver l'enfant. Et des années plus tard, cet enfant, devenu adulte, devenu lui-même missionnaire, va dire durant toute sa vie que ma vie appartient au Christ, mais qu'elle est aussi en partie grâce à cet homme qui m'a sauvé. De la même manière, Jésus a risqué bien plus. Il a donné sa vie pour toi. Et comme David aujourd'hui, comme beaucoup de chrétiens, tu peux déclarer, je lui appartiens, il est mon rocher et ma forteresse. Ne repartez pas ce matin sans répondre à cette question. Qui est ton refuge aujourd'hui? Est-ce que c'est le Dieu qui ne change pas? Ou est-ce que c'est ton conjoint, ton travail, tes enfants? Des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont bien dérisoires face aux épreuves qui frappent et qui ne tiendront pas dans la durée. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin. viens encore nous édifier. Merci de nous édifier, nous encourager. Je te prie, mon Dieu, aussi pour chacun de nous. Pour ceux qui te connaissons, mon Dieu, viens nous aider à mettre ta parole en pratique. À ne pas le faire de manière religieuse, mon Dieu, mais à compter sur ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Et avec toi, Père, nous sommes capables de faire des exploits, d'affronter, mon Dieu, notre propre chair, nos propres démons intérieurs, pour pouvoir encore trouver une ressource précieuse en toi. Je veux aussi te prier, mon Dieu, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ou qui ont pas fait encore le choix de te suivre ce matin, viens te révéler à eux. Que dans ta grâce, Père, tu puisses encore parler dans leur vie, et tu es ce Dieu encore, mon Dieu, qui n'est pas juste abstrait, absent, mais tu es ce Dieu qui parle à celui qui a un cœur sincère. Viens encore, mon Dieu, faire ton œuvre parmi nous ce matin, et que nous puissions encore tenir bon. Merci pour mon frère David aussi, Jésus, que tu viennes aussi édifier, consolider sa foi, mon Dieu, pour qu'il ne puisse jamais lâcher ta main. Amen.